Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, bienvenue dans le 13-14. Ravi de vous retrouver à la une aujourd'hui. Une mère transgenre peut-elle apparaître à l'état civil comme le deuxième parent de son enfant? C'est oui pour la cour d'appel de Toulouse. Décision inédite. Aujourd'hui, nous serons à 13h, nous serons avec l'avocate de Claire pour comprendre les ressorts et les conséquences de cette décision. Sur fond de flambée des prix, Total Energy met la main au porte-monnaie. Remise de 5 euros pour un plein de 50 litres dans les zones rurales. Chèque de 100 euros pour ses abonnés au gaz les plus précaires. Comme une réponse à ces Français de Brie, près de Cherbourg.
On n'est pas loin des 15-20% d'augmentation. Quand même.
On a besoin de la voiture tout le temps quand on habite à la campagne, dans un petit village.
J'ai fait le plein d'un fourgon par exemple hier, c'est la première fois que je bloque à 120 euros, ça fait drôle quoi, on se dit je peux même plus faire le plein avec le plafond qui est autorisé dans les stations quoi.
Nous verrons dans le journal ce que ce geste représente pour le groupe qui tente de couper court aux critiques sur les profits des groupes pétroliers. Dans le journal encore, les convois de la liberté, mouvement anti-pass importé du Canada, surveillé de près par le ministère de l'Intérieur. Nous verrons ce que dit cette note des renseignements. Alors que des voitures et camping-cars s'élancent aujourd'hui de plusieurs villes françaises, direction Paris puis Bruxelles. Nouvelle médaille d'argent pour la France aux Jeux Olympiques de Pékin, où la France n'aura pas finalement de représentant officiel. On vous expliquera pourquoi. Dans la deuxième partie du 13-14 à 13h30, suite au scandale Orpea, comment intégrer le grand âge dans la société et sortir peut-être du modèle des EHPAD? Ce sera la question avec notre invitée, la cardiologue retraitée Véronique Fournier, membre du conseil autoproclamé de la vieillesse. Vos questions 01 45 24 7000. Et puis dans le vif de l'histoire, à l'occasion du sommet Un Océan, Jean Lebrun nous parlera de Surcouf, légendaire capitaine corsaire qui donnait aussi dans le commerce d'esclaves. Le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est une première en France et peut-être une sorte de révolution au sein de notre société. La cour d'appel de Toulouse a tranché ce matin. Elle autorise pour la première fois une femme transgenre à être considérée comme la mère de son enfant. Claire, habitante de l'Hérault et parent biologique de sa fille de 8 ans, attendait cette décision avec impatience. Elle nous l'avait confiée en novembre dernier.
Il n'y a pas de raison que parce que je suis une femme trans, je sois pas traitée comme la femme lesbienne que je suis. Moi, ce que j'attends, c'est un peu une reconnaissance de cette situation qui est peut-être la première en France, mais qui sera loin d'être la dernière. Pour aussi éviter que d'autres, après nous, ne subissent ce long chemin de croix juridique.
Claire au micro France Inter de Mathilde Vinceneuve en novembre dernier. Et pour bien comprendre les ressorts et les conséquences de cette décision, nous sommes avec Clélia Richard, avocate au barreau de Paris et l'avocate donc de Claire, cette mère transgenre. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. C'est une première juridique, effectivement, hein, cette décision.
Oui, c'est une première. C'est une première en France et c'est une première en Europe.
Et ça change quoi pour la vie de cette mère qui donc vient d'être reconnue mère de son enfant officiellement?
Alors ça change tout puisque vous l'avez rappelé, ça fait 8 ans que Claire sollicite à être reconnue comme étant la mère de son enfant. Jusqu'à présent, pour que nos auditeurs nous comprennent bien, seule Marie était sur l'acte de naissance de l'enfant. Donc il n'y avait qu'une seule filiation maternelle jusqu'à aujourd'hui.
Donc, seul l'autre parent figurait sur l'acte de naissance. Dans le concret, dans le quotidien, ça signifie quoi?
Ça signifie que Claire n'avait jusqu'à aujourd'hui pas l'autorité parentale. Elle n'avait pas non plus la possibilité d'une dévolution successorale si jamais elle décédait, si elle était décédée.
Pas l'autorité aujourd'hui. Parentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne peut pas aller la chercher à la crèche, à l'école, en l'occurrence?
Alors, de facto, elle allait la chercher à l'école, elle allait l'emmener chez le médecin, parce que la famille s'entend bien, voilà, il y a une harmonie de vie de famille. Mais concrètement, si par exemple l'enfant est hospitalisé avec des décisions lourdes à prendre sur le plan médical, Claire n'en avait pas la possibilité juridique. Si on lui demandait de justifier de son autorité parentale, elle ne le pouvait pas jusqu'à aujourd'hui.
Et est-ce que c'est le point final de cette affaire, cette décision, ou ça peut encore continuer? Il y a des nouvelles étapes judiciaires?
Il y a des nouvelles étapes, mais il y avait un troisième point très très important pour l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, elle ne portait pas le nom de famille de Claire, ni le nom de famille du coup du reste de la famille. Et ça, c'est un immense soulagement pour cette famille, pour Claire, l'épouse, les deux frères aînés, et puis évidemment pour cet enfant.
Et donc la petite fille aujourd'hui va porter le nom de cette mère qui vient d'être reconnue mère par la justice.
Voilà, et du reste de sa famille, c'est-à-dire en fait de ses deux parents et de ses deux frères, alors que jusqu'à présent, elle n'avait pas le même nom de famille.
Et est-ce que ça peut faire jurisprudence, cette décision ?
Alors, ça va faire jurisprudence, à mon sens, sans ambiguïté. C'est une avancée majeure pour le droit des personnes trans, cette décision de ce jour. C'est une victoire des droits fondamentaux sur un code civil qui, aujourd'hui, dans le droit de notre filiation, est contradictoire et on va dire aussi obsolète. C'est-à-dire qu'il y a des avancées, on l'a vu dans la loi de bioéthique, on l'a vu aussi, par exemple, hier soir, hein, au travers de la loi Limon, il y a des avancées en matière de filiation, mais il reste des incohérences et il reste des zones de non-droit. Et pour les personnes trans, qui justement se sont fait éjecter, pardon de l'expression, mais de la loi de bioéthique, eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment à marquer d'une pierre blanche sur le calendrier.
L'avocate Clélia Richard, avocate de Claire, donc cette mère transgenre qui vient d'être reconnue comme deuxième mère de son enfant. Merci de nous avoir répondu sur France Inter.
Avec plaisir.
Au chapitre justice encore, Claude Guéant a quitté ce matin la prison de la santé. L'ex-ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy bénéficie d'une liberté conditionnelle. Il était derrière les barreaux depuis la mi-décembre dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Va-t-il enfin expliquer ses actes ? Le principal accusé des attentats du 13 novembre 2015 est attendu à la barre cet après-midi à la cour d'assises spéciale de Paris, interrogé pour la première fois sur le fond du dossier depuis l'ouverture du procès en septembre dernier. Salah Abdeslam était jusqu'ici resté mutique. Les autoproclamés convois de la liberté, mouvement anti-restriction sanitaire importé du Canada, vont-ils faire tache d'huile en France ? En tout cas, des centaines de véhicules s'élancent aujourd'hui de plusieurs villes françaises, direction Paris d'abord, puis peut-être Bruxelles le 14 février. Départ de Bayonne par exemple, ou de Nice, c'était ce matin, peu après 10h, Julie Munch y a assisté.
Ils sont partis sous le son des klaxons, drapeau bleu, blanc, rouge au vent. Didier habite près de Nice.
Nous sommes en guerre. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, mais je ne reviendrai pas avant la victoire.
Dans le coffre de sa voiture, un matelas, des couvertures, une valise. Chantal, qui est garée derrière lui, a aussi des sacs remplis de nourriture.
C'est le fouillis et le petit déjeuner. Là, c'est de l'alimentation qu'on nous a donnée. Mais il va falloir qu'on se débrouille parce qu'il y a deux personnes qui vont monter avec nous.
Cette gilet jaune, qui est aussi anti-passe vaccinal, ira jusqu'à Paris, coûte que coûte, dans sa voiture. D'autres ont des camionnettes où l'on voit aussi des drapeaux canadiens se mêler aux drapeaux français. Mais pour Philippe, sur sa moto, ce mouvement est un peu différent de celui d'Ottawa.
On va y aller en bon enfant, on ne va pas se prendre la tête, on n'a pas l'intention de faire des révolutions, on a l'intention de se faire entendre. Une bonne fois pour toutes qu'on arrête de nous prendre pour des enfants, vous savez, j'ai passé l'âge. Il faut aller jusqu'au bout et montrer un petit peu notre volonté en disant on ne veut pas casser, mais on veut faire comprendre à ces gens qui se croient au-dessus de nous, à un moment donné, redescendre sur terre.
D'autres veulent bloquer Paris, mais ce matin, au départ de Nice, aucun routier ne s'est mêlé au cortège.
Reportage France Bleu Azur et le mouvement trouve un écho aussi côté politique. Marine Le Pen, candidate RN, dit comprendre ses opposants au pass vaccinal. La France Insoumise encourage même ses militants à y participer. Bref, il y a là de quoi alerter les services des renseignements. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Dans une note, il parle d'un possible nouvel élan des mouvements contestataires, même s'il n'est pas encore structuré.
Oui, une mobilisation virtuelle importante sur les réseaux sociaux et les messageries cryptées, selon cette note des services de renseignement territoriaux que nous avons pu consulter. Ce midi, le groupe intitulé Le Convoi de la Liberté sur Facebook dépassait les 300 000 inscriptions, ce qui rappelle évidemment les mobilisations au plus fort du mouvement des gilets jaunes. D'ailleurs, précise la note, ce sont bien des gilets jaunes tendance ultra et des antipasses sanitaires qui relaient les messages, principalement la mouvance complotiste également. Mobilisation prise en tout cas très au sérieux au sein du ministère de l'Intérieur, avec le risque d'une récupération politique et l'engagement de militants de plusieurs partis d'opposition. Gérald Darmanin a déjà prévenu qu'en cas de tentative de blocage de Paris dimanche, il y aurait une réponse très ferme de l'État. Pour l'instant, en tout cas, dans l'entourage du ministre, on doute que la situation canadienne se reproduise aux abords de la capitale ce week-end. D'abord parce que seules les grandes organisations syndicales de transporteurs routiers ou agricoles ont réussi ce tour de force ces dernières années et elles n'ont pas appelé à tout bloquer, une source policière. Et une autre côté gendarme indiquait à la mi-journée attendre les premiers points de rassemblement annoncés cet après-midi à Marseille, Tours, Bayonne ou encore La Rochelle, Dijon et Avignon pour avoir une idée précise et réelle cette fois de l'ampleur de ces convois dits de la liberté.
Et ces convois, ils dénoncent donc les contraintes sanitaires, mais aussi le coût de la vie, cette inflation qui pourrait atteindre 3 à 3,5% au premier semestre. et la flambée des prix de l'énergie. À la veille de ces résultats qui s'annoncent très bons, le patron de Total Énergie annonce, lui, un geste en direction des Français les plus modestes. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Un geste sur l'essence, remise de 5 euros pour un plein de 50 litres chez Total en zone rurale, et sur le prix du gaz, 100 euros pour les abonnés au gaz les plus précaires. Ça représente quoi pour Total, Laurent ?
Alors, cette ristourne commerciale représente 50 millions d'euros pour Total, une remise de 100 euros sur les factures de gaz, qui concernera 200 000 clients ménages modestes éligibles au chèque énergie du gouvernement, soit 20 millions d'euros donc sur les factures de gaz, auxquelles s'ajoutent 30 millions sur les factures d'essence à la pompe. Ce coup de pub et cette ristourne concernera les stations et les axes en zone rurale dans les communes de moins de 6 000 habitants, un geste commercial qui peut paraître modeste, mais qui représente en réalité le tiers des bénéfices empochés par Total sur la distribution de gaz et l'électricité. L'essentiel des bénéfices engrangés par le pétrolier n'est évidemment pas là, mais bien sûr l'extraction et la vente de pétrole dans le monde entier.
C'est aussi une façon pour Total Énergie de calmer les esprits. Hein. Tous les géants pétroliers, Shell, BP et les autres sont en ce moment critiqués pour leurs méga-profits.
Oui, au Royaume-Uni, c'est le parti travailliste qui réclame une taxe exceptionnelle sur les compagnies qui extraient du pétrole et du gaz en mer du Nord. Une demande rejetée par le gouvernement de Boris Johnson. British Petroleum, BP donc, a dévoilé 8 milliards d'euros de bénéfices. En France, c'est Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel qui demandent une taxation des bénéfices record pour les pétroliers. Aux États-Unis, Exxon vient d'annoncer 23 milliards de dollars. Total devrait annoncer 15 milliards de bénéfices demain. Les pétroliers surfent évidemment sur cette demande record en Asie et aux États-Unis. Une production mondiale de pétrole qui plafonne. Le baril de Brent est au plus haut depuis 2014 et fonce tout droit vers les 100 dollars.
Laurent Kramer, service économie de France Inter. Et au chapitre énergie, la prochaine étape, c'est le programme nucléaire du président de la République, dévoilé demain à Belfort, où Emmanuel Macron sera en déplacement. Comme le disait ce matin Dominique Seux sur France Inter, le chef de l'État devrait annoncer la commande à EDF de 6 réacteurs EPR de deuxième génération et peut-être 8 de plus, soit 14 en tout, la fourchette haute de ce qui était attendu. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Une décision attendue par la filière nucléaire depuis longtemps. Hein.
Oui, ça fait des années que cette filière nucléaire attend un feu vert. Il y a un an, Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, a remis un rapport dans lequel il détaille son projet de 3 paires de nouveaux réacteurs EPR, 2 à Penly en Normandie, 2 à Gravelines près de Dunkerque, les deux derniers au Tricastin ou à Bugey dans l'Ain. Ces nouveaux EPR sont des versions simplifiées et standardisées du prototype d'EPR de Flamanville, dont l'achèvement est prévu en fin d'année, avec 10 ans de retard et une facture qui a quasiment quadruplé. Le pari technologique est risqué, reconnaît l'Elysée, mais les besoins d'électricité sont massifs. Dans le transport, les logements, ils s'accélèrent, d'autant que la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit la fermeture de 14 anciens réacteurs d'ici 2035. Or, miser 100% sur les renouvelables, le solaire, les éoliennes pour décarboner notre énergie en 2050, ce pari est encore plus risqué selon l'Elysée, même si on a besoin des renouvelables dès maintenant, car les premiers EPR ne seront pas raccordés au réseau au mieux avant 15 ans. Demain, Emmanuel Macron devrait donc faire des annonces sur la façon de raccourcir les délais pour bâtir plus de renouvelables plus vite. Quel sera le coût de ce nouveau nucléaire ? EDF l'estime pour 6 EPR à 50 milliards d'euros dans une première version, plusieurs fois contredite. Des audits externes sont en cours sur ce sujet. Ils seront publiés dans les jours qui viennent. L'État jouera son rôle pour financer ce nouveau nucléaire, assure l'Elysée. Comment ? L'exécutif en discute en particulier avec Bruxelles.
Delphine Simon, spécialiste énergie au service économie de France Inter. Et de trois candidats déclarés ou potentiels sont à ce jour en mesure de se présenter à l'élection présidentielle d'avril prochain. Après Emmanuel Macron, la candidate LR, Valérie Pécresse et la socialiste Anne Hidalgo, elles aussi passent la barre des 500 parrainages d'élus pour valider leur entrée en course. En revanche, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen au Rassemblement National ou encore Éric Zemmour notamment n'ont pas jusqu'ici réussi à réunir assez de signatures. Un problème démocratique, estiment aujourd'hui des élus du Modem. Bonjour Yael Gauze.
Bonjour Marion.
Des élus qui donc se mettent en réserve pour offrir leur paraphe si besoin et permettre à ces gros candidats de concourir quand même.
Oui, et François Bayrou, le premier, serait prêt à montrer l'exemple. Parrainer n'est pas soutenir. Le président du Modem lance un appel au micro de France Inter.
Certains des candidats majeurs sont menacés de ne pas avoir les signatures. Or, à mon sens, ça créerait une très importante crise de confiance. Et on peut pas laisser faire ça. Et donc, l'idée que je défends, c'est qu'on constitue une réserve, que les élus se mettent d'accord pour être cette garantie d'honnêteté de la démocratie.
Cette réserve de 200 à 300 élus est encore virtuelle. Il faut attendre de voir si les pénuries évoquées dans certains QG, notamment au RN et chez les Insoumis, sont fondées ou non. Mais attention, cette réserve ne se limiterait pas aux élus MoDem. Ils sont libres, il n'y aura pas de consigne, nous dit François Bayrou. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. En tout cas, quelques parrainages macronistes, même macronistes, Marine Le Pen ne dirait pas non. Son porte-parole, Laurent Jacobelli.
Le parrainage, c'est pas une adhésion à un programme politique, c'est simplement un geste administratif qui dit que le candidat ou la candidate parrainée est légitime à entrer dans l'élection. Donc bien évidemment, nous accepterions, et je pense que c'est un signe fort qu'envoie François Bayrou. Personne ne comprendrait que Marine Le Pen ne soit pas candidate à la présidentielle.
Car ce qui inquiète le camp Le Pen aujourd'hui, c'est l'absence de filet de sécurité au-delà du seuil des 500. Il y a problème aujourd'hui sur 80 promesses de parrainage toujours pas honorées, car la concurrence avec Éric Zemmour est féroce.
Les candidats ont jusqu'au 4 mars pour obtenir leur signature. Au chapitre politique encore, les adoptions d'enfants pourraient être facilitées. Le Parlement a adopté définitivement hier une proposition de loi LREM. Mesure phare, l'ouverture de l'adoption plénière aux couples pacsés ou concubins qui devrait mettre fin aux discriminations liées au type d'union ou à l'homoparentalité. Le texte abaisse aussi l'âge minimal requis pour les adoptants de 28 à 26 ans et la durée minimale de vie commune de 2 à 1 an. Augmenter la mixité sociale et scolaire dans les lycées parisiens. Le rectorat de la capitale y travaille et après la réforme de l'affectation engagée l'an dernier, d'autres pistes sont étudiées, comme faire rentrer sur la plateforme informatique de répartition AFELNET, y compris les lycées d'élite Henri IV et Louis le Grand. Jusqu'ici, ces établissements recrutés de façon autonome et sur dossier. Réaction aujourd'hui des professeurs des lycées concernés dans une tribune du Figaro. En substance, ne renonçons pas à notre modèle d'excellence. Christelle Rigal, prof de sciences de la vie et de la terre à Louis le Grand, fait partie des signataires.
Personnellement, j'ai voulu signer pour mes élèves. Ça fait 10 ans que je travaille dans cet établissement. Il y a une mixité sociale dans cet établissement et bien sûr aussi parce qu'il y a des élèves qui sont très motivés et doués. S'ils viennent à Louis le Grand ou Henri IV, s'ils viennent parfois de très loin avec 2 ou 3 heures de trajet, c'est parce qu'ils n'ont pas dans leur lycée de secteurs, en banlieue parisienne notamment, des conditions de travail satisfaisantes. Et ce sont des lycées qui recrutent avec une procédure AFELNET, ce qui montre que la mixité sociale ne fonctionne pas actuellement avec AFELNET. Je préférerais que ça fonctionne, je préférerais qu'on ait une mixité sociale dans tous les établissements de France. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est empêcher des élèves méritants qui n'ont pas les moyens d'aller dans le privé, d'avoir accès à une scolarité de qualité.
Christelle Rigal, professeure de SVT à Louis-le-Grand, jointe par Philippe Père pour France Inter. Et à l'instant, le principal accusé des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam, vient de prononcer ses premiers mots devant la cour d'assises spéciale de Paris. Je le cite, « Je n'ai tué personne, je n'ai blessé personne ». Il recouvre 70% de la planète et pourtant c'est la première fois qu'un tel rendez-vous leur est consacré. Les océans, au cœur des discussions pendant 3 jours à Brest avec le sommet Un Océan. Des scientifiques, des associations, des politiques, des patrons sont attendus jusqu'à vendredi. Les océans sont l'un des poumons de notre Terre. Ils sont aussi un réservoir de nourriture fragilisé par le changement climatique. Que deviennent par exemple les huîtres avec ce grand bouleversement? Eh bien, selon les chercheurs de l'Ifremer, ces coquillages sont menacés de mortalité d'ici 2050. Mais des solutions existent, Célia Kiret, utiliser les algues par exemple.
Les huîtres n'apprécient pas vraiment quand l'eau est trop chaude ou acide. Dans son laboratoire de l'Ifremer, le biologiste Fabrice Pernet les teste. Il observe des mortalités.
Au départ, ce qu'on va voir, c'est des malformations. C'est-à-dire des coquilles qui ont des formes toutes tarabiscotées dans les larves, qui du coup nagent pas bien, tournent en rond et qui finissent par mourir. Et globalement, c'est ça les symptômes de l'acidification. Et ça, on observe ça à des pH aussi bas que 7,6, qui sont des pH, comme je dis, qu'on rencontre occasionnellement dans le milieu naturel. L'acidification, c'est pas un problème pour 2100, c'est un problème maintenant. D'ailleurs, vous avez des professionnels qui vont vous dire qu'ils ont l'impression que leurs coquilles sont plus fragiles.
Or, il existe une solution presque magique. Quand on cultive des algues brunes ou rouges tout près des huîtres, ces coquillages vont tout de suite mieux. Ces algues pourraient en effet influencer le microbiote des huîtres.
La co-culture huître et algues permet de limiter les effets de l'acidification. Ponctuellement, les algues faisant la photosynthèse, elles vont capter le CO2 de l'eau pour fabriquer de la matière organique et par conséquent, réaugmenter le pH. Et donc, typiquement, si vous avez une zone côtière pleine de macro-algues, Ben ça, c'est bon pour les huîtres, c'est bon pour les larves. Ça, c'est vraiment une voie d'avenir.
Cette culture d'algues au service des huîtres est déjà très présente au Japon. Mais attention, il ne peut s'agir que d'algues brunes ou rouges. Les algues vertes, très présentes en Bretagne, sont particulièrement dangereuses pour les coquillages.
Un autre écosystème pas plus tendre, sans doute, celui de l'édition et des médias, où les grandes manœuvres inquiètent Antoine Gallimard. Le patron des éditions Gallimard l'a dit ce matin sur France Inter. Il ne voit pas d'un bon œil le projet de fusion entre Hachette, premier éditeur français et propriété du groupe Lagardère, et son concurrent actuel, Editis, qui appartient à Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Le même mouvement qui doit rapprocher la radio Europe 1 et la télévision CNews. Antoine Gallimard, à la tête, lui, d'une maison d'édition familiale, craint pour le pluralisme de son secteur.
C'est un véritable tsunami, cette histoire. Je suis très inquiet, parce que non seulement il s'agit de voir qu'il y a des parts de marché extrêmement importante que représenteraient les deux grands groupes, le numéro 1 et le numéro 2, mais aussi que derrière, on touche à des terrains extrêmement sensibles. Le scolaire, le parascolaire, ce serait des présences sur le marché des deux grands groupes de l'ordre de 80%. En littérature poche, ça serait autour de 65%. Alors vous me direz, ben voilà, c'est la concurrence, mais je dis pas du tout. Parce qu'en fait, derrière, c'est une exclusion de tous les autres. Il y a une sorte d'illusion en disant que il va créer un grand système de divertissement à la Disney et que le livre servira de ressource. Moi, j'y crois pas du tout. Notre grande force en France, c'est la diversité. La grande force, c'est d'avoir des libraires indépendants, d'avoir aussi des petits éditeurs, d'avoir des auteurs de toutes sortes. On fait un métier d'artisan, on fait pas un métier de grand industriel.
Antoine Gallimard, invité ce matin de Léa Salamé sur France Inter, entretien à réécouter en intégralité sur notre site franceinter.fr. La culture sur grand écran, c'est la traditionnelle chronique cinéma du mercredi avec notre spécialiste. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Les amateurs de films catastrophes vont être comblés. Le maître du genre, Roland Emmerich, sort aujourd'hui son nouveau film Moonfall.
Avec la NASA, on peut dire qu'on est un petit peu en froid là.
Alors ça va changer. Je leur dirais que la Lune est sortie de son orbite.
Et oui, c'est la Lune cette fois-ci qui s'apprête à nous tomber sur la tête. Décidément. Avec, pour nous sauver, Halle Berry, un astronaute de la NASA qui devra faire équipe avec un geek passionné de la théorie des complots. Une mise en scène à gros budget, des effets dans tous les sens pour un film évidemment qui se regarde sur grand écran en mangeant du pop-corn. Ça sera de nouveau autorisé dans une semaine, donc ça tombe bien. Même si ce nouveau Moonfall est un petit peu moins excitant que 2012 ou le jour d'après, on est toujours au final un peu dans le même schéma, plus très moderne, pour un sujet déjà beaucoup exploité au cinéma, celui de l'intelligence artificielle qui prend le pouvoir.
Également au cinéma, une nouvelle adaptation d'Agatha Christie, Mort sur le Nil, par le comédien réalisateur Kenneth Branagh.
Alors obsessionnel, hein, vaniteux, assoué dans un premier volet déjà des aventures d'Hercule Poirot sorties il y a 5 ans, Kenneth Branagh des deux côtés de la caméra, qui délaisse aujourd'hui l'ambiance feutrée des wagons de l'Orient Express pour un voyage sur le Nil dans un décor de carton-pâte, au pied des pyramides de Gizeh, du temple d'Abou Simbel. C'est un des romans les plus connus d'Agatha Christie, adapté en BD, au théâtre, à la radio, au cinéma, qui va être servi cette fois par un casting qui séduira à peu près toute la famille, et notamment les fans de super-héros. Gal Gadot, Wonder Woman, dans le rôle de la richissime Lynette Doyle, assassinée la nuit de ses noces, ou encore la révélation de la série Sex Education, Emma McKay, dans celui de la grande rivale. Après un train, un meurtre, une histoire de vengeance dans le premier volet, nous voici donc avec ce film, avec un meurtre, un bateau et une histoire de gros sous. Épisode un peu moins flamboyant que le précédent, pas désagréable mais un poil kitsch, avec toujours du suspense mais une incarnation quand même très proche du théâtre de boulevard.
Allez, on termine avec une comédie, le deuxième film du Palmachot, Les Vedettes.
On va passer à la télé, c'est génial.
Ça m'intéresse pas, Daniel.
Il y a le prêt à tout prix qui nous a appelé, on est sélectionné.
Une petite nappe ?
On vient de se faire virer, on va peut-être gagner 100 000 balles. Ouais, bah ouais, de rien, ouais.
Le Palmachot, Grégoire Ludic, David Marsay, qui s'emparent d'un sujet qu'ils ont déjà beaucoup parodié dans leurs sketchs, qu'ils connaissent bien, l'univers de la télévision, à travers deux personnages, Stéphane et Daniel, l'employé du mois, le Johnny Depp d'Orléans, voilà comment on les appelle dans le film, le naïf, le chanteur raté, deux personnages en couleur, fauchés, solitaires, que l'on va suivre dans leur désir de reconnaissance sur des plateaux de jeux télé, pour le meilleur et pour le pire, évidemment, entre un karaoké, un jeu d'argent. C'est un film à leur image, à la fois très potache, rempli de répliques, de situations, à l'humour humour toujours un peu absurde mais efficace, doublé aussi d'un regard très cynique sur l'industrie de la télé. On rit beaucoup, on chante un peu aussi, avec une BO à très second degré, mais assez addictive.
Les conseils de Corinne Pellissier pour vos sorties ciné. Merci Corinne. Ce film-là pourrait s'appeler Le choc des petits poussés, en quart de finale de la Coupe de France cet après-midi. Bergerac affronte Versailles. Il y aura donc forcément un club de National 2 en demi-finale de la Coupe de France de football. Coup d'envoi 18h30 à Périgueux. Du football au JO de Pékin. Et avant de parler de cette nouvelle médaille côté français, cette confirmation. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
La ministre des Sports étant positive à la Covid, il n'y aura pas de représentant officiel à ce grand événement sportif en Chine.
Une accréditation aux Jeux Olympiques ne se change pas en un claquement de doigts, souligne-t-on dans l'entourage de Roxana Maracine et Anou. Une excuse un peu légère pour justifier que son ministre de tutelle, à savoir celui de l'éducation, Jean-Michel Blanquer, ne prenne pas sa place à Pékin. Alors doit-on y voir un boycott déguisé ? Pas du tout, assure le cabinet de la ministre. Cela a été une douche froide pour elle, qui n'a même pas de symptômes du Covid, ne s'attendait pas, nous explique-t-on, à être testée positive. D'ailleurs, elle n'aurait pas pris des claques pendant des semaines sur son choix d'aller à Pékin pour finalement renoncer à la dernière minute. Reste que la délégation française est réduite à peau de chagrin. Brigitte Henriques, la présidente du comité olympique et sportif, est toujours en convalescence, le Covid là encore. Heureusement, Nathalie Péchala, la présidente de la Fédération des sports de glace, elle aussi positive, a finalement pu arriver à Pékin. Mais les athlètes savent que nous les soutenons, se persuade la ministre, qui dit s'entretenir tous les jours avec la délégation de Pékin. Pas sûr que cela suffise à rassurer des sportifs hivernaux qui s'estiment souvent lésés par rapport à leurs collègues des Jeux estivaux.
Les Jeux olympiques de Pékin ou la mode, comme sur les podiums des défilés de mode, est décidément à l'argenté, couleur de la nouvelle breloque décrochée ce matin par Chloé Trespech en snowboard cross. Vous avez suivi cette course pour France Inter. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Marion.
Un sourire pour la Savoyarde à l'arrivée d'une descente pour le moins technique.
Oui, quelle maîtrise sur cette piste de Zhangjiakou, et elle en avait tellement envie de cette médaille Chloé Trespech que l'argent s'est presque transformé en or à ses yeux. Arrivé le poing levé devant le clan français, elle a fondu en larmes et s'est jetée dans les bras de son entraîneur.
C'est hyper fort parce que je sais qu'il croyait en moi et j'avais pas du tout envie de les décevoir. On est tout seul sur la piste mais émotionnellement on implique plein de gens et du coup voilà, c'est tout ça qui est remonté quand j'ai passé la ligne.
Il y a 8 ans en Russie, elle avait décroché le bronze en étant à 19 ans une parfaite inconnue dans ce milieu du snowboard. En 2018, la Savoyarde termine à la 5e place de la finale olympique, échec cuisant qui a forgé la suite de sa carrière.
C'était le premier gros échec de ma carrière, une désillusion complète. Je m'étais pas du tout préparée à pas avoir de médaille tellement j'étais concentrée et en fait une grosse claque, mais ça m'a permis de tout remettre en question et du coup, je pense que ça m'a vraiment fait grandir.
Alors sachez-le, Chloé Trespech s'inscrit dans la tradition du snowboard français qui, depuis les Jeux de 2006, a toujours ramené au moins une médaille.
Ça nous permet de montrer notre sport et si ça peut donner envie aux jeunes en station de s'inscrire au club de snowboard pour vivre les sensations du snowboard cross, c'est tout bénef.
Et à l'image de Chloé Trespech, la persévérante, l'américaine Lindsay Jacobellis s'est enfin parée d'or tout à l'heure pour ses 5e Jeux Olympiques.
Jérôme Val en direct des Jeux Olympiques de Pékin pour France Inter avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Merci à tous les deux. La France pointe à la 11e place du tableau des médailles. Norvège, Suède et Pays-Bas occupent pour le moment le haut du classement. Et puis les JO version été et carnet rose. Clarisse Agbenienou, double médaillée d'or à Tokyo, annonce sa grossesse sur le réseau Instagram. Un enfant à venir, synonyme, dit la judoka, de pause dans sa carrière. Mais la championne le promet, elle sera de retour en forme pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Changement de génération à 13h30, la cardiologue retraitée Véronique Fournier, membre du conseil autoproclamé de la vieillesse, nous rejoint dans le sillage du scandale Orpea. Comment intégrer le grand âge dans la société et sortir peut-être du modèle des EHPAD? Ce sera la question, vos témoignages 01 45 24 7000. Mais d'abord, dans un instant, un coup d'œil à la météo de ce mercredi.
Pour Arnaud, retrouver son souffle, ce n'est pas important, c'est essentiel. Pour son bien-être, bien sûr, mais aussi pour pouvoir continuer longtemps de rouler avec son club de vélo. Avec la médecine thermale, prenez naturellement soin de vous pour bien vivre aujourd'hui et pour mieux vivre demain. Trouvez votre cure thermale sur médecinethermale.fr. La médecine thermale, restez soi-même et pour longtemps.
Ciel dégagé ce 9 février.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Du soleil et de la douceur presque partout.
Oui, au niveau national, cette journée s'annonce comme la journée la plus ensoleillée de la semaine, avec possiblement la journée de samedi entre le sud-ouest, les régions méditerranéennes, Auvergne-Rhône-Alpes, le Jura, l'Orléanais, le bassin parisien, jusqu'à l'est de la Picardie, aux Ardennes et à l'Alsace. Le soleil sera quasiment tout seul dans le ciel. De belles éclaircies vont aussi se développer sur les Hauts-de-France et la Normandie, même si quelques poches de nuages bas pourront maintenir un ciel plus gris. Sur le Languedoc, ce sont des entrées maritimes qui vont contrarier les apparitions du soleil, ces nuages pouvant aussi déborder vers les Bouches-du-Rhône. Même chose sur la Vendée et la Charente-Maritime, les nuages glissant progressivement vers le Poitou et les Pays de la Loire. Et puis une perturbation s'approche du nord-ouest. Cet après-midi, les nuages vont surtout s'étendre sur l'ouest de la Bretagne, la Manche et les Flandres, avant de s'enfoncer plus dans les terres en soirée. Cette perturbation sera peu active, mais pourra quand même lâcher quelques gouttes avant la fin d'après-midi sur le nord du Finistère. Et puis l'ambiance était fraîche ce matin, avec même quelques petites gelées observées. Cet après-midi, c'est la douceur qui règne. Les maximales sont largement au-dessus des normales de saison, de 2 à 5 degrés en général. Prévoyez 9 à 17 degrés, avec jusqu'à des 18-20 degrés en Provence et entre le Piémont pyrénéen, le Pays Basque et les Landes.
Merci Sébastien Léas de Météo France. Il est 13h30 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14. Marion Loup.
Après la révélation du scandale, les actions judiciaires. Ça fait 2 semaines et le livre Enquête les fossoyeurs n'en finit plus de faire des vagues. L'ouvrage, qui dénonce les conditions de vie des pensionnaires âgés dans les EHPAD privés du groupe Orpea, semble avoir libéré la parole. Et les familles de seniors multiplient les actions en justice pour dénoncer les mauvais traitements réservés à leurs proches dans ces établissements très onéreux. Certaines familles envisagent même de sortir leurs aînés. Mais pour faire quoi? Pour vivre où? C'est peut-être ça la principale question sans réponse aujourd'hui. Quelle solution alternative pour les personnes âgées, surtout les personnes dépendantes? Pour quelques éléments de réponse avec nous dans ce 13-14, Véronique Fournier, cardiologue retraitée et membre du Conseil national autoproclamé de la vieillesse, des seniors qui se mobilisent pour faire entendre leur voix. Bonjour.
Bonjour.
Vos questions, chers auditeurs, 01 45 24 7000. Vous avez monté en décembre dernier ce collectif, Véronique Fournier, avec d'anciens médecins, universitaires, dramaturges, journalistes, militants. Ce que vous dites, vous, c'est l'EHPAD, c'est pas la solution, il faut l'éviter, en fait.
Oui, nous pensons vraiment qu'aujourd'hui, il faut changer de modèle. Ça se fera pas du jour au lendemain. Nous sommes bien conscients que aujourd'hui, il y a guère d'autres solutions, mais il faut les inventer ensemble. Et pour les inventer, le mieux, c'est de les inventer avec les gens que ça concerne, c'est-à-dire avec les gens vieux.
Est-ce qu'il y a un effet Covid dans la création de votre collectif? Je pense à ces fermetures d'EHPAD au moment de la crise sanitaire où les proches ne pouvaient même plus venir visiter les pensionnaires.
Oui, bien sûr, il y a un effet Covid. Il y a eu plusieurs crises qui ont concerné les personnes âgées depuis quelques années. Ça a commencé avec la canicule, par exemple, en 2003. Et puis, il y a eu effectivement la première vague de Covid, et puis il y a eu la campagne de vaccination, et puis etc. Mais ces scandales ou ces crises ne suffisent pas, semble-t-il, pour prendre conscience qu'il faut véritablement penser le sujet autrement. Et c'est ça qui nous est apparu à une collection d'entre nous qui sommes déjà sur la pente de la vieillesse, qui sommes déjà vieux et qui le revendiquons. On s'est dit, il faut faire quelque chose, pas attendre que les politiques bougent et nous faire entendre.
Franck nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Franck.
Oui, bonjour. Je voudrais remercier Madame Fournier de son intervention. Je viens de vivre récemment la présence en EHPAD d'un beau-père. Et j'ai vu des choses qui m'ont révolté. Et vous qui êtes cardiologue, Madame Fournier, je peux par exemple vous citer le cas de médecins traitants qui viennent une fois par mois quand on arrive à en trouver un, parce que vous savez que c'est pas facile de trouver un médecin traitant pour aller en EHPAD, ils y vont en reculant. Et quand les personnes, les personnels soignants disent, ben la personne âgée, elle se laisse pas faire sa toilette correctement, tout simplement parce qu'elle a mal, elle a de l'arthrose, mais là, on lui donne des neuroleptiques. Ce qui fait que la personne est complètement abrutie pendant 2 jours, 3 jours, elle rate des repas, etc. Alors moi, la question que je pose, c'est que peut-on faire pour assister les personnes âgées qui sont seules, qui ont des problèmes cognitifs et qui n'ont pas la chance d'avoir une famille qui vient les voir 2, 3, 4 fois par semaine comme nous on le faisait pour notre beau-père. Mmh. Voilà, c'est pas possible de laisser les gens seuls à la merci de structures qui les prennent en otage, parce que si des personnes se plaignent, il y a des représailles entre guillemets qui sont faites. Hein. Mmh. Et la famille est là heureusement pour calmer un peu le jeu.
Merci pour votre témoignage, Franck. Alors là, Franck fait appel à votre expérience d'ancien médecin, en fait, Véronique Fournier.
Oui, j'ai moi-même beaucoup été sollicitée pour aller voir et essayer de faire le médiateur en EHPAD entre des familles et des équipes soignantes. Donc je connais bien la question et merci de votre témoignage qui intéresse énormément de gens. Alors, je pense que c'est manifeste, que ça prouve que le modèle tel qu'il a été inventé ne convient pas. La première chose, à mon avis, qui fait que ça ne convient pas, c'est que ce sont à la fois des lieux de vie et de soins. Et d'une certaine façon, c'est ça qui est incohérent, parce qu'on ne peut pas en même temps soigner quelqu'un et en même temps faire en sorte qu'il ait une bonne qualité de vie et qu'il soit dans un lieu dans lequel il a envie d'habiter, dans lequel il est respecté dans son identité, dans son histoire, dans sa singularité.
C'est deux activités incompatibles, d'après vous. Ça ne doit pas se faire au même endroit.
Je pense qu'on ne peut pas le faire sur le long terme. Ça n'existe pas sur le long terme d'avoir un lieu de vie qui soit un lieu de soins ou un lieu de soins qui soit en même temps un lieu de vie. Or, c'est ça qui est la spécificité des EHPAD. Donc, je pense qu'il faut que ces gens, ils restent dans un lieu de vie qui est conçu pour eux, dans des petites unités, à l'intérieur des villes, dans lesquelles il y a effectivement des gens qui peuvent venir les voir régulièrement et qui ne soient pas tout seuls. Et puis, s'ils ont besoin, eh bien, il faut les transporter pendant 15 jours pour une remise au point sur le plan thérapeutique.
Alors, Véronique Fournier, effectivement, ça c'est un modèle qui fait rêver hein, beaucoup de gens, mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes dépendantes? Une personne sur cinq qui est dépendante après 80 ans. Et puis quand on regarde les résidents des EHPAD, souvent ils ont jusqu'à 8 maladies dont ils souffrent en même temps. Donc c'est difficile dans ce cadre d'aller vivre dans un lieu de vie, une petite communauté en ville.
Il me semble qu'il y a deux types de dépendance. Il y a la dépendance physique, liée à la maladie souvent, et à des maladies plurielles. Et puis, il y a de la dépendance cognitive, ce que nous appelons, nous, cognitive, intellectuelle, mentale. Les gens qui ont des maladies, comme la maladie de Alzheimer, et qui ont du mal à garder leurs esprits. Ceux-là, très souvent, n'ont pas d'autres maladies. Ils sont encore très ingambes. Ils peuvent sortir, se promener, etc. Les enfermer dans des lieux de vie où ils sont concentrés à 80, sans possibilité d'autres contacts, parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir, c'est dangereux pour eux, ça ne va pas. Il faut probablement réfléchir à des alternatives comme celle qui est faite dans le village des Landes ou comme celle qui est faite par les petits frères des pauvres au village de Tuiles, etc. Et les autres, ceux qui sont très dépendants physiquement, ceux-là, on peut les soigner à domicile. Tous les soins peuvent être amenés à domicile. Et ils peuvent rester, au-delà de leur maladie, en vie. Et avoir envie de vivre parce que ce qu'on leur propose est une vraie vie collective avec d'autres et qui respecte ce dont ils ont envie sur le plan culturel, sur le plan loisir, sur le plan de leurs relations et qui reste en lien social avec d'autres. La maladie n'est qu'une partie de leur vie. On ne peut pas les considérer uniquement à travers leur état de santé.
Mmh. Aurélie a appelé le standard de France Inter. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Vous êtes une ancienne infirmière, vous?
C'est ça. Je me suis reconvertie il n'y a pas longtemps et c'est vrai que j'aurais bien aimé exercer avec les personnes âgées, mais voilà, être la seule infirmière pour plus de 100 patients qu'on voit à peine, qu'on n'a pas le temps de s'occuper, ça ne m'intéressait plus. Et en fait, ma question, c'est est-ce que au lieu de ces maisons de retraite qui effectivement sont peut-être pas géniales, est-ce qu'on pourrait pas avoir des petites structures dans des maisons, des vraies maisons, avec 3-4 personnes âgées dépendantes et un ou deux soignants qui se relaient jour et nuit, et puis par exemple un infirmier qui passerait dans 3-4-5 maisons pour faire les soins où là il y a vraiment besoin d'un infirmier, ou ça peut sur les libéraux d'ailleurs, mais voilà, au moins ils seraient dans des vraies maisons, ils seraient pas trop nombreux. Est-ce que ça pourrait pas être une solution et est-ce que ce serait vraiment plus cher que un EHPAD Corian ou pas?
Ou Orpea. ça fait partie de vos propositions, je crois, Véronique Fournier, de celle du Conseil national autoproclamé de la vieillesse.
Tout à fait. Et donc c'est ça. Bravo pour ce genre de propositions. Venez les discuter avec nous lundi soir à la cartoucherie à 17h à Paris. C'est vraiment ces initiatives individuelles et ces idées individuelles que l'on aimerait faire connaître. et que nous aimerions tester. Et c'est quand même les personnes qui sont les plus proches d'avoir besoin de ce genre de choses demain, ou qui ont accompagné des gens qui en ont eu besoin, qui peuvent le mieux dire ce qui est bien, ce qu'on aimerait, comment on aimerait que ça change et comment on aimerait inventer ensemble d'autres solutions. Moi, je suis sûre que la proposition que vous faites est tout à fait jouable.
Sur ce sujet, on peut prendre aussi le témoignage d'Armel qui nous a appelé. Bonjour Armel.
Oui, bonjour. C'est pour parler d'une résidence autonomie. Que je trouve que c'est mal connu et j'ai une amie qui s'y trouve qui est vraiment très bien.
Ça consiste en quoi ?
Résidence autonomie, alors c'est un endroit où elle est sécure, mais elle a son appartement indépendant. Il y a une permanence du personnel, il y a des aides à domicile pour les personnes qui en ont besoin, il y a une restauration en semaine. Voilà, il y a des animations si elle le souhaite.
En clair, un peu plus d'autonomie, Véronique Fournier, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de solution ?
Tout à fait, ça c'est pareil, ce sont des très bonnes initiatives. Ce que nous soutenons, nous, c'est que plutôt que de parler EHPAD ou autre solution, il faut parler cadre de vie. Essayez de voir quel est le cadre de vie qui convient le mieux. Et l'autre chose, c'est que nous pensons que les vieux que nous sommes et avec qui nous réfléchissons pensent que ce n'est pas une bonne idée d'être obligé de changer de lieu de vie et de cadre de vie tous les 10 ans. Alors on part de son appartement, on va dans une résidence autonomie, puis après on est obligé d'aller dans une EHPAD, puis après on est obligé peut-être d'aller dans une unité de fin de vie. Voilà, donc ça fait beaucoup de changements alors que les gens, ils ont envie de rester dans la continuité de leur vie, quoi, pas se faire trimballer tous les 10 ans dans des lieux différents.
Alors Véronique Fournier, justement à propos de ce cadre de vie dont vous parlez avec le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, vous allez proposer un certain nombre de solutions la semaine prochaine. Vous parliez du théâtre de la cartoucherie où vous allez les présenter. Quelles sont les grandes lignes en fait de ces solutions que vous proposez, que vous lancez dans le débat avant la présidentielle ?
Alors la première proposition, c'est de dire nous voulons qu'il y ait un Conseil national consultatif des personnes vieilles, c'est-à-dire que les politiques qui concernent les personnes vieilles soient débattues avec les vieux. De façon justement à ce qu'elles soient adaptées à leurs besoins.
On les choisit comment alors, ces vieux dont vous parlez ?
Oh, alors ça, on sait très bien faire en France. On sait très bien prendre les représentants des associations, des grands lobbies qui réfléchissent aux questions, etc. Nous, ce que nous voudrions simplement, c'est qu'au moins 2/3 des personnes de ce conseil soient des personnes vieilles.
Après, c'est-à-dire à partir de quel âge ?
Pour nous, c'est 65 ans. À partir du moment où on est à la retraite, nous avons tous vécu que le regard sur nous-mêmes est un peu différent. Et donc, c'est ça que nous disons. Mais nous disons qu'il y a ensuite un continuum et qu'il y a effectivement des besoins très différents à 85 ans, puis à 95 ans. Mais probablement, à 95 ans, c'est plus difficile de faire parler les gens en public. Mais nous pouvons aller les voir, savoir comment ça se passe pour eux, les faire parler, leur dire « racontez-nous, c'est quoi de vivre à 95 ans ?» Nous ne le savons pas, nous ne l'avons pas vécu encore. Donc, dites-nous comment c'est, quelles sont les difficultés, quelles sont les joies encore, quels sont les plaisirs de l'existence et comment on peut essayer ensemble de faire en sorte que vous les viviez plus souvent.
Donc ça c'est pour la gouvernance, vous avez des propositions pour le quotidien des gens aussi hein ?
Voilà, nous avons aussi des propositions pour le quotidien. Par exemple, nous pensons qu'aujourd'hui, souvent l'aménagement des villes ne tient pas suffisamment compte des difficultés de mobilité des personnes âgées. Et qu'on pourrait imaginer des villes qui soient avec des transports en commun plus confortables pour les personnes vieilles, avec aussi des trottoirs peut-être plus confortables pour les personnes vieilles, et puis peut-être aussi une accessibilité à des taxis gratuits, pourquoi pas, pour les personnes vieilles, parce que très souvent, c'est pour elles la meilleure façon de se déplacer, même si il y a peu de voitures maintenant dans les villes, eh bien peut-être qu'il faudrait favoriser l'accès à des taxis ou à des transports en commun faciles pour les vieux, aux personnes vieilles.
Et alors, est-ce que vous avez l'espoir d'être entendu par les candidats à la présidentielle ? Ça vous semble un sujet qui peut être audible aujourd'hui ?
Écoutez, en tout cas, ça nous semble un sujet, ça c'est sûr. La preuve, c'est d'une certaine façon l'enthousiasme qu'a suscité cette création du Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Nous avons reçu des dizaines et des dizaines de messages de gens qui nous ont dit « on veut en être ». Et l'idée que ce soit les gens eux-mêmes et la société elle-même qui inventent les choses pour demain, ça nous paraît enthousiasmant. Et donc, même si les politiques, eux, n'y croient pas, nous y croyons.
Véronique Fournier, cardiologue retraitée et membre du Conseil national autoproclamé de la vieillesse, merci d'être venue sur France Inter aujourd'hui et de nous avoir dévoilé une partie de vos propositions.
France Inter, le 13-14.
13h43, à suivre sur Inter, nouvel épisode de notre feuilleton 5 Français dans la campagne présidentielle. Aujourd'hui, c'est avec Camille, designer à Lyon. Déçu par la division de la gauche, il ne sait toujours pas pour qui voter. Un peu plus tard, c'est le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Direction Saint-Malo aujourd'hui.
Sommet sur l'océan à Brest et entre nous, puisque nous sommes mal loin, on va parler d'un marin qui n'a pas eu le temps de vieillir, Surcouf.
On se retrouve juste avant 14h, mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
À votre micro aujourd'hui, le jeune pianiste Sofiane Pamar, connu pour collaborer avec de nombreux rappeurs. Il publie vendredi un nouveau disque, Letter, et il est en tournée au 6 coins de l'Hexagone.
Il sera ce soir à Nantes, Cité des Congrès, demain, Salle Pleyel, à Paris, samedi à Strasbourg. Et ensemble, on a tout d'abord parlé de son parcours, de son père qui lui a fait découvrir la chanson française, Brassens, Brel, Barbara, et de ses années de conservatoire à Lille. Lui, les compositeurs qu'il préfère, ce sont les romantiques.
Moi, c'était pas du tout la musique avec laquelle j'étais familier, et c'était pas non plus la musique qu'on écoutait autour de moi. Mais en fait, j'y ai pris goût en la jouant. Donc, on me donnait une partition de Chopin. Finalement, je commençais à percevoir ses secrets. J'ai fait la même chose avec du Schumann, avec du Brahms. Et puis, petit à petit, en fait, c'est devenu une musique que j'ai beaucoup aimée, mais parce que je l'ai travaillée de l'intérieur.
Mais c'est pas cette musique-là qu'on écoutait autour de vous, vous disiez.
C'est ça. J'ai un oncle en fait qui m'emmenait dans toutes les soirées rap, dans des studios, dans des ambiances normalement pas trop accessibles pour un petit de 8 ans. Mais avec lui, j'ai découvert vraiment une autre facette de la vie, plus libre, plus audacieuse, plus secrète aussi, plus mystérieuse. Et avec du rap en permanence.
Il s'appelle comment ?
Il a un surnom, mon oncle. Il s'appelle Poison, Tonton Poison. Mais non, mais c'est un personnage incroyable. Mon oncle, il a 15 ans de plus que moi. Donc quand j'avais 8 ans, il avait la vingtaine, et il m'a emmené partout parce que déjà je savais bien jouer du piano, donc dès qu'il y avait un clavier, c'était très valorisant pour lui, ça racontait un petit peu avec tout ça. Et aussi parce qu'en fait il avait décidé de me faire découvrir les ambiances musicales et les concerts de rap parce qu'il adorait ça. Donc j'ai découvert le rap grâce à lui en fait. Et donc ça c'est de la musique qui est devenue ma musique de cœur.
J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas de nos prérogatives. Tchernobyl, tcherno débile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline.
Et c'est donc un titre d'MC Solar qu'a choisi de nous faire écouter Sofiane Pamar, Frédéric.
Sa chanson Caroline, sortie en 1991. Et s'il la connaît, cette chanson, c'est évidemment grâce à son oncle, Tonton Poison.
Et donc je découvre MC Solar. Je me rends compte que cet artiste arrive à faire la passerelle entre ce qu'écoute mon père et ce qu'écoute mon oncle en fait. D'un seul coup, je me rends compte qu'il y a un artiste qui est capable de mettre les deux d'accord. Et en plus de ça, j'ai eu l'impression avec Caroline que c'était le morceau qui arrivait le premier à mettre des mots sur ce que c'est que d'être amoureux. En racontant un personnage, Caroline, qui a l'air à la fois d'être un idéal féminin. Et en même temps, est-ce que ce personnage existe vraiment ? Et je me posais déjà la question quand j'étais enfant.
Elle est partie, mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main fumant le même mégo, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis las de trêve qui pique ton cœur.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce personnage pouvait représenter toutes les histoires d'amour. Et à chaque fois que je suis tombé amoureux dans ma vie, ben Caroline, c'est une chanson qui fonctionnait à chaque fois pour décrire ses sentiments.
Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamofine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma doute, ma coke, mon crack, mon amphétamine. Caroline.
C'est toujours très classe en fait, MC Solar, même quand c'est rebelle, c'est toujours très très classe.
Tout à l'heure, vous disiez que dans la musique qu'on appelle classique, vous aviez une préférence pour les compositeurs romantiques. Est-ce que là, ce morceau, on peut dire que c'est du rap romantique ?
Ah ouais, c'est amusant, j'ai jamais fait ce rapprochement, mais je suis entièrement d'accord en fait. C'est vrai que là, on est clairement dans le romantisme. Rangeons-le dans cette catégorie-là.
C'est pas un baroque.
C'est pas un baroque, ouais, du tout. Je pourrais pas citer un seul rappeur baroque. Ça me paraît un peu compliqué.
Vous en avez rencontré beaucoup des Carolines, vous ?
Ben non, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles sont très rares. C'est ce qui rend cette chanson aussi précieuse.
Je suis las de trêve qui pique ton cœur. carreau. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline.
Caroline, MC Solar, c'était donc Frédéric, le choix du pianiste Sofiane Pamart.
Dont paraîtra vendredi Letter, son nouvel et très bel album. Et notez déjà qu'il sera à Bercy, mais oui, en novembre prochain.
Et vous, vous serez là demain. Merci Frédéric Pommier.
À demain.
À 13h48 sur Inter, on continue notre feuilleton à la rencontre de 5 Français, 5 citoyens dans la campagne présidentielle. Qu'on retrouvera régulièrement jusqu'au scrutin d'avril. Aujourd'hui, rendez-vous avec Camille, designer à Lyon. Il a 47 ans, il a voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017 et désespère aujourd'hui de voir une gauche écologiste unie. Camille s'est confiée à Laurence Perron.
Alors, est-ce que vous pouvez mettre la table, s'il vous plaît, les enfants ?
La dernière fois que je t'ai vue, tu m'as expliqué que finalement, en l'état, tu ne savais toujours pas si tu allais voter, mais que le candidat qui, à tes yeux, portait quelque chose qui se rapproche le plus de tes idéaux, c'était Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on en est toujours là ?
Oui, c'est un peu toujours ce que je pense. Après, on est passé par une étape qui est effectivement la primaire populaire. Et en désespoir de cause, je me suis un peu mis à espérer qu'il puisse se passer quelque chose grâce à cette primaire populaire. Depuis qu'on s'est vu, je me suis inscrit à la primaire populaire pour voter. Et j'ai voté selon mes convictions. Franchement, j'ai pas compris les attitudes des uns et des autres.
Comment ça, t'aurais voulu que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Jadot disent « Bon, bah d'accord, ok, c'est Taubira ».
Mais bien sûr, j'espérais ça. Au lieu de quoi, on a eu finalement juste des fins de non-recevoir, des principaux candidats à gauche, donc Mélenchon, Jadot, Hidalgo, n'en parlons pas, parce qu'elle, franchement, personne ne comprend, je vais pas parler à la place des autres, mais moi, personnellement, je ne comprends pas du tout son positionnement de réclamer une candidature unique, puis après de refuser d'être parmi les inscrits à la primaire populaire, et puis d'arriver en dernier, et puis de pas se retirer. Donc moi, je comprends pas où sont les logiques là-dedans. Donc je suis désespéré.
Parce que ta candidate, en plus, après, enfin ta candidate, puisque maintenant tu as voté pour elle d'une certaine manière, même si tu n'avais pas voté pour elle, mais elle devient ta candidate, Christiane Taubira, est-ce que tu trouves que ses premiers pas de campagne ont été convaincants ?
Mais non, mais pas du tout. Et d'ailleurs, avant la primaire populaire, je ne trouvais pas forcément que sa déclaration de candidature était convaincante. J'ai trouvé simplement que c'était bien qu'il y ait quelqu'un qui éventuellement pouvait emporter l'adhésion d'un grand nombre de personnes, plébiscitées par une majorité des gens de gauche. En fait, j'en suis pas si sûr que ça. Puis surtout, à mes yeux, elle partait avec un gros handicap, c'est qu'elle a pas de programme. Enfin, elle a une bribe de programme.
Et alors, qu'est-ce qui pourrait se passer pour que ça change ? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va continuer comme ça, avec une gauche, 8 candidats ? Enfin bon, peut-être que tous n'auront pas leur parrainage, parce que bah, voilà, ça va peut-être éclaircir un peu le jeu aussi. Mais si on continue comme ça, avec une gauche où il y aura 5-6 candidats, est-ce que tu penses que finalement... on va se retrouver face à un match déjà écrit.
Franchement, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va falloir qu'il se passe forcément quelque chose. Il va falloir qu'il y ait des candidats qui se retirent, au premier rang desquels Hidalgo, parce que je me dis, sa campagne, elle a quand même pas vraiment décollé. On ne voit pas franchement ce qu'elle apporte de plus.
Alors elle dit qu'elle se positionne sur la laïcité. C'est devenu un nouvel axe de son programme.
En fait, il y en a marre de voir des politiques qui cherchent en fait des axes pour se démarquer. C'est pas ça qu'on attend. Enfin, pour moi, c'est pas un sujet, la question de la laïcité ou la question de l'islamisation ou du grand remplacement. C'est pas un sujet. C'est juste pour noyer le poisson, pour détourner les regards des enjeux principaux, au premier rang desquels la question du changement climatique. Et franchement, je suis en colère de voir que ces gens à gauche là. Qui se veulent humanistes, qui se veulent travailler pour le bien commun, n'arrivent pas à trouver le plus grand dénominateur commun entre leurs candidatures. On voit tous en fait ce qui va arriver, hein, c'est que Macron va arriver au deuxième tour certainement, qui sera peut-être réélu comme en 2017, avec des voix qui sont pas du tout des plébiscites, mais ça serait déplorable, ça serait franchement une honte pour la gauche. Hein. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller, ces politiquards de gauche, là ? Mais on a envie de leur dire, mais c'est pas possible, quoi. Vous voyez bien ce qui va arriver. Moi, je désespère, en fait, de cette classe politique. Ouais.
5 Français dans la campagne présidentielle avec Camille, aujourd'hui au micro de Laurence Perron. Réalisation Lucie Lemarchand. À suivre demain, Marie-Claudine, ex-électrice d'Emmanuel Macron, elle aussi à la recherche de l'union de la gauche.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire avec un parfum d'embrun aujourd'hui. Jean Lebrun, à l'occasion du sommet international sur les océans à Brest, on parle de surcouf. 2 biographies sont consacrées ces jours-ci aux Malouins. Aujourd'hui, 73 marins de course au large appellent à protéger ce bien commun qu'est la haute mer. La course au large a différencié de la course des corsaires, ces actes de piraterie pratiqués au XVIIe et XVIIIe contre les ennemis avec l'aval du roi. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que le capitaine corsaire ne voyait pas la mer comme ses descendants du XXIe siècle.
Alors il y a un appel donc qui paraît dans le Point et qui présente, il est signé par des marins de course d'aujourd'hui, la mer comme le lieu qui permet la quasi-totalité des échanges du monde. Et les deux biographies que vous évoquez, Michel Verger-Franceschi et mon homonyme Dominique Lebrun, convergent au moins sur un point. Surcouf, qui atteint l'âge de commander en 1793, quand reprend la guerre avec l'Angleterre, ne conçoit pas celle-ci, la guerre à mer, comme les marins de course d'aujourd'hui. Pour lui, c'est le moyen de défendre la patrie, peut-être, mais c'est aussi celui d'étendre les intérêts de sa famille et de sa personne.
Et si on reprend l'appel des 73 marins de cette année, de 2022, Jean, on lit que la mer inspire les poètes.
Exemple, on va vous écouter, Marie.
Le 31 du mois d'août, nous aperçûmes sous le vent à nous une frégate d'Angleterre. Nous l'avons prise par son avant à coups de hache d'abordage. Nous l'avons mise à la raison. Et merde pour le roi d'Angleterre, je vous le chante pas.
Ça, c'est la course à l'ancienne. C'est le chant d'agonie de la course sur Couf. On va la pratiquer jusqu'en 1814. 281 bateaux corsaires auraient été armés à Saint-Malo depuis 1793. Mais pour quel bénéfice réel, demande mon homonyme Lebrun. Les pays neutres supportent de plus en plus mal la course. Et parmi les neutres, il y a alors les États-Unis, la Russie. C'est le langage des 73 de 2022 qui commence à pointer. Les blocus, la brutalité sur les océans, c'est intolérable. La course, c'est le résidu d'une piraterie qu'il faut éradiquer. Ou non, je cite encore les 73, du bien commun unique qu'est la mer.
Surcouf était déjà d'un autre temps à son époque.
Oui, Verger-Franceschi note qu'au fond, son seul exploit incontesté, c'est la prise du Kent en 1801. Et bien d'autres de ses hauts faits ont provoqué des réserves chez ses contemporains. En 1796, le gouverneur de l'Île-de-France, l'actuel Maurice, confisque ses prises, car il est allé au-delà de ce que permettaient ses lettres de marque. Pareillement, 1808-1809, le nouveau gouverneur de la même île confisque son revenant et jusqu'à ses biens. D'ailleurs, à Paris, il a suscité aussi l'agacement. Pourquoi ne s'engage-t-il pas dans la marine nationale? Ça, c'est l'avenir.
Les 73, encore de 2022, je les cite, « La mer, c'est le lien inaltérable entre les pays et les cultures du monde ».
Oui, à l'automne de l'an de grâce, 1789, Surcouf participe à sa première expédition négrière. Les planteurs antillais ont passé commande de noirs directement à Mozambique et le jeune Surcouf est sur place. Quand il débute, la traite est légale, puis ne l'est plus. Puis, le redevient, 1802. Enfin, ne l'est plus. Alors, il s'embarrasse assez mal de tant de subtilité. Le meilleur biographe de Surcouf, c'est en fait Alain Roman, récemment disparu, qui a parfaitement documenté la question. Entre 1815 et 1825, 10 voyages de traite illégale sont partis de Saint-Malo. 6 ont été organisés par Surcouf. Il ne me semble pas que mon homonyme Lebrun ait suffisamment noté ce fait établi dans son livre. En revanche, on lit ceci sous sa plume, page 76. À la fin du 19e, nul encore ne relève le caractère criminel de l'esclavage ni de la traite négrière et cet état d'esprit va perdurer. Jusqu'à la fin du 19e, mais alors qu'ont fait les différentes associations anti-esclavagistes pour être ainsi rayées des mémoires? Lebrun, qui reprend systématiquement toutes les légendes mythifiant Surcouf, non sans préciser qu'elles ne sont fondées que sur l'imaginaire malouin, généralement, en reproduit une qui vaut son pesant d'or. Surcouf, croisant au large du Cap-Vert 2 navires négriers américains et constatant l'état des captifs, aurait fait promettre à l'un des 2 capitaines d'abandonner cet atroce métier. Que ne l'a-t-il fait lui-même?
Surcouf, marin de légende, il y a surtout, Jean, une légende Surcouf.
Oui, alors le jeune Surcouf qui grimpe aux vergues peut séduire. L'amateur, devenu armateur, est revenu vieilli avant la quarantaine à son port de naissance, achète à tout bout de champ des terres, des hôtels, des maisons. Il est devenu si gras qu'il lui faut aussi acheter, quand il va à Paris, des ceintures pour lui soutenir le bas-ventre. Alors l'époque du sommet pour les océans gardera la très belle statue de Surcouf sur les remparts de Saint-Malo, des plus beaux endroits que nous connaissons, n'est-ce pas Marion ? Mais se choisira d'autres héros.
En tout cas, dans le combat éditorial, le vainqueur au point est Michel Verger-Franceschi, Surcouf, la fin du monde corsaire, passé composé qui l'emporte, c'est vous qui le dites hein Jean, sur Dominique Lebrun, Surcouf, le tigre des mers, Talendier. Merci donc à Jean Lebrun et à demain. Dans quelques minutes, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vida.
Bonjour Marion.
Ça y est, vous voilà guéri.
Absolument.
Et en suffisamment bonne santé pour nous emmener dans les grands fonds.
Voilà, après les embruns de Jean Lebrun, eh bien on reste en mer pour évoquer l'exploitation des abysses à l'occasion toujours du sommet de l'océan à Brest.
Et on plonge après les infos.
Oui.